Docteur Pierre Somsi, bonjour.
Bonjour.
Le taux de contamination COVID-19 connaît une forte hausse ces derniers temps. Qu'est-ce qui justifie cette montée fulgurante?
C'est l'évolution naturelle de la maladie. Il y a quatre phases dans l'évolution de la maladie à COVID-19 qui sont presque identiques aux phases observées dans le sida. Il y a une phase silencieuse, une phase invisible. Ces phases souvent marquées par la complaisance des gens, la négligence, le déni. Ce qui fait que, plus souvent, cette phase évolue rapidement vers la phase de la maladie, qui est la deuxième phase, là où beaucoup de cas apparaissent, et ainsi que des cas graves. La troisième phase, si cette deuxième phase n'est pas maîtrisée, auquel que nous devons empêcher, c'est la phase de mortalité, où on va voir des cas de plus en plus graves et beaucoup de cas de mortalité. Et la quatrième phase, qui la conséquence de mortalité, c'est que on va avoir un impact socio-économique important avec des survivants, des orphelins, des veuves, des institutions qui tombent en faillite ou qui sont affaiblies. Alors, cette évolution n'est pas le fait de l'échec de la riposte. Cette évolution qui est constatée à partir des chiffres montre qu'on dépiste. Notre stratégie est basée sur le dépistage, comme dans les autres pays du monde. Et nous, on dépiste beaucoup. Et c'est ce qui montre qu'on a un nombre de cas qui augmente. C'est une bonne chose, comme je viens de vous le dire. C'est ce qui nous permet de prendre conscience de l'évolution de l'épidémie, de connaître la direction que l'épidémie prend et de prendre les mesures appropriées.
Et certains Centrafricains pensent que ce n'est pas un bon chiffre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela?
Non, ça les engage. Sur quelle base je ne sais pas sur quelle base ils disent que ce n'est pas un bon chiffre. Ce sont des attitudes qu'on connaît déjà depuis le temps de camp de sida. Il y en a eu des intellectuels souvent qui mettent en question les chiffres, mais beaucoup d'entre eux sont morts. Donc, pour moi, les gens qui n'ont pas confiance à ces chiffres n'ont qu'à venir me voir et me dire sur quelle base ils mettent en doute les chiffres. Jusqu'à preuve du contraire, on est les mieux placés pour dire ces chiffres qui proviennent de nos activités de dépistage. Les bases de données existent, ils peuvent venir les vérifier.
Avec 1952 cas déjà enregistrés sur 11 juin, comment se fait la prise en charge des patients?
Mais la prise en charge des patients se fait de plusieurs manières, mais on prend en charge les cas modérés ou graves à l'hôpital et les cas simples, de plus en plus, seront pris en charge à domicile.
Alors aujourd'hui, il n'y a que deux centres qui accueillent les malades de COVID-19, celui de l'hôpital de l'Amitié et celui de l'hôpital général. Le tout pour une soixantaine de places seulement. Où sont placés les autres patients et comment se fait leur prise en charge?
Non, ces deux centres ne font pas qu'une soixantaine. On a près de 160 lits, 160 places. On va bientôt avoir 200 places au CNHU. Donc ça va être plus de 200. Et on a aussi plusieurs autres centres qui vont être aménagés. L'un dans l'ancien hôpital Campidel au Brou. L'autre va être au camp des Roues. Et il y a un centre spécialisé pour les malades très graves que le MSF va bientôt construire aussi, qui sera ouvert dans 3 semaines. La construction d'un centre conséquent est aussi planifiée. On a des financements qui sont en cours de mobilisation et qui comportent aussi le financement d'un centre spécialisé d'environ 300-500 lits.
Ça va se faire où?
La localisation est encore en train d'être étudiée.
Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dénoncer une mauvaise gestion des fonds mobilisés par les partenaires et par les personnes de bonne volonté. Qu'en dites-vous?
Ça n'engage que ces personnes. Moi, j'ignore d'où viennent leurs inquiétudes. La gestion de ces fonds est faite selon les règles de gestion de finances publiques. Le ministère de la Santé n'a pas à se plaindre de ça. Les fonds qui sont annoncés par les partenaires sont avec les partenaires. Ils ne sont pas donnés au gouvernement. Beaucoup de fonds qui sont annoncés sont encore en train d'être mobilisés. Jusqu'ici, on a eu environ 7,5 millions de dollars de la banque. De ces 5,5 millions de dollars, 1 million a été mis à la disposition directe du ministère, géré par le ministère des Finances, à travers le projet Agir, l'équivalent de 1 milliard de francs CFA, qui nous ont aidés actuellement à lancer la réponse, à faire la surveillance, à organiser le dépistage. Près de 2 millions 5 ou 3 millions sont avec l'OMS pour commander des équipements. Et ces équipements sont en train d'être commandés à travers les dispositifs de l'Organisation mondiale de la santé. Nous n'avons pas encore reçu ces équipements-là. Et près de 2 millions également sont avec d'autres partenaires, notamment l'UNICEF, pour acheter les médicaments.
Donc pour le moment, l'argent est un peu partagé.
L'argent est partagé. L'argent est géré à travers des organisations. Nous ne gérons pas du cash. Ce que les compatriotes donnent, effectivement, sont mis dans un compte qui est ouvert et qui est géré avec l'appui du ministère des Finances, avec un régisseur. Nous disposons d'un fonds de 500 millions qui complète ce que les partenaires donnent, qui représente, disons, la cagnotte de l'État et qui est donnée sous forme de caisse d'avance que nous essayons d'utiliser très parcimonieusement. Moi, je n'ai pas de problème en termes de gestion des fonds. Nous avons besoin plutôt de ressources. Les ressources qu'on a ne sont pas suffisantes.
Et aujourd'hui, on est à combien en général ?
De ressources mobilisées ?
Oui.
On doit faire le point. Je crois qu'on doit être à environ à peu près à 70 milliards, disons, de façon générale mobilisés. Mais on n'a pas les 70 milliards en main. Certains financements sont encore attendus. Il y a aussi les dons en nature que nous recevons.
Selon nos informations, les malades se baladent parfois dans les milieux publics. N'est-ce pas l'une des causes de la propagation rapide de cette maladie ?
Bien entendu, les malades se baladent, mais la plupart des personnes qui transmettent la maladie ne se voient pas. Ce sont des porteurs asymptomatiques. C'est pour cela que les mesures barrières ont été mises en place. Ce n'est pas en identifiant les malades qu'on se protège. C'est en observant les mesures barrières, parce que le virus n'est pas visible. Et la plupart du temps, la personne qui est malade n'est pas visible. Et donc, c'est pour cela qu'il a été demandé aux populations d'observer les mesures barrières. Ces mesures barrières ne sont pas respectées. C'est ça qui favorise la transmission de l'infection.
La RCA a reçu 3 cartons de COVID organique. Un don de Madagascar. Est-ce que ces produits ont été utilisés ?
Ces produits ne sont pas encore utilisés. Nos chercheurs sont encore en train de mettre au point le protocole pour organiser donc l'évaluation de ces médicaments de concert avec leurs pairs de ces autres pays. Bientôt, cette évaluation commencera.
Le personnel soignant déplore le fait que jusqu'ici, il n'a pas encore reçu des matériels donnés par les partenaires pour lutter contre cette maladie en milieu sanitaire.
Ça dépend de quel personnel soignant parle. Je vous demande d'aller voir les directeurs des hôpitaux pour leur poser des questions à ce sujet. La situation des équipements manufacturés pour la lutte contre le Covid n'est pas facile. Même dans le monde entier, il y a une carence d'équipement. Les dons que nous recevons sont en petite quantité. Et ces dons, nous les répartissons entre les différents hôpitaux et à travers tout le pays. Ce n'est pas des dons qui sont faits au personnel de santé, c'est fait aux hôpitaux pour certaines activités. Les masques que nous envoyons, les équipements, c'est pour les activités hospitalières.
Que dites-vous du préavis de grève du personnel de santé déposé sur la table du gouvernement ?
Il faut que ce préavis de grève soit justifié, bien justifié. Si cette période de grève est justifiée par des revendications qui sont des revendications de tous les temps, ça ne se justifie pas. Lutter contre une épidémie est un moment d'honneur pour l'agent de santé. C'est en ce moment-là que l'agent de santé doit montrer qu'il a prêté serment. Et le meilleur syndicat pour l'agent de santé, c'est son travail. Donc, toutes ces revendications ne serviront absolument à rien parce que ce sont des revendications séculaires qui n'ont jamais abouti. Mais en tout cas, dans le contexte actuel de crise, il n'est pas indiqué pour les agents de santé d'aller en grève, à moins qu'ils décident de renier à leur profession.
Docteur Pierre Chomsé, nous vous remercions.
Merci.